Retrouvez dès à présent la chronique de Sarah Kalenia, avocate en droit de l'homme, qui nous fait un focus sur l'actualité internationale.
Bonjour Cyril et bonjour à tous. Alors petite question à tout le monde, est-ce que vous aussi, depuis le 7 octobre, vous avez l'impression de jouer au Scrabble avec des mots plus longs et compliqués les uns que les autres? Parce qu'on a l'impression que tout le monde cherche à faire des mots comme triple, de marquer des points dans le concours de qui emploierait la notion la plus inconnue au bataillon et qui s'en féliciterait d'en obtenir la meilleure définition pour passer pour le savant de la bande. Et vas-y donc que depuis le 7 octobre, on n'a jamais autant entendu les mots crime de guerre, génocide, résolution, droit international humanitaire, tribunaux pénaux et j'en passe. Comme s'il était devenu tout d'un coup honteux d'employer des mots de moins de 4 lettres, au risque de passer pour un idiot. Et parmi ces mots, il y en a un que j'aime bien, parce que celui-ci, il fait partie de la bande des mots dont on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais on l'emploie quand même parce que ça fait bon genre. Je parle de l'autodétermination. Mais si, vous voyez bien, ce mot employé par les extrêmes et les sachants de tous bords pour gueuler à qui veut bien l'entendre, mais si, on était là d'abord. Voilà, l'archéologie et l'histoire sont devenues des sciences superflues parce que Martine et ses 32 abonnés sur Instagram, elle sait qui a le droit de vivre sur une terre à des milliers de kilomètres de chez elle. Et ce, alors qu'elle-même adresse à peine un bonjour à ses voisins quand elle les croise dans l'ascenseur. Alors c'est quoi l'autodétermination? À l'origine, ce mot, employé pour la première fois d'un point de vue philosophique, renvoyait à la notion de libre arbitre et à la capacité d'un individu à déterminer son destin sans coercition. C'est au début du XXe siècle que ce mot commence à prendre une nouvelle tournure pour désigner l'action d'un peuple qui décide de sa propre forme de gouvernement. Et il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que l'autodétermination soit introduite dans le droit international pour désigner tout simplement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de déterminer librement leur statut politique et de poursuivre leur développement économique, social et culturel. On fait plus simple, le droit à l'autodétermination, c'est le droit d'un peuple autochtone ou un peuple occupé militairement de disposer de lui-même pour se constituer dans la société de son choix, donc de se libérer de l'oppression, que celle-ci soit politique, économique ou militaire. C'est ça l'autodétermination. C'est quand un peuple s'émancipe d'un régime qui l'oppresse pour réussir à vivre libre et à fuir les violences et les discriminations. Et ça a même été consacré des années plus tard dans la Déclaration des peuples autochtones du 1er novembre 2007. Alors, maintenant la question c'est qui peut réclamer ce droit? Imaginez si demain toutes les minorités du monde réclamaient leur indépendance et le droit de vivre selon leurs propres règles. Ça en serait fini de nombreux États qui verraient la fin de leur unité territoriale. Et du coup, les Nations Unies, qui n'ont pas été trop idiotes hein, face à ce risque, ont décidé de conditionner ce droit à plusieurs conditions. Donc pour réclamer ce droit, il faut tout d'abord constituer un peuple, être concentré sur un territoire déterminé, manifester sa volonté de vivre en commun et de se séparer de l'État, avoir des institutions politiques capables d'exercer une autorité sur le territoire et s'engager à respecter les principes du droit international. Et au fil de l'histoire, plusieurs peuples ont réussi à réclamer et exercer ce droit. On a eu ceux qui, par exemple, ont mené des actions révolutionnaires, comme les colonies espagnoles au début du XIXe siècle, ou ceux qui ont mené des référendums, comme la Norvège, qui en 1905 décide de se séparer de la Suède. Et on a eu, bien sûr, depuis 1945, tous les peuples en situation coloniale qui se sont prévalus du droit à l'autodétermination pour accéder à leur indépendance. Et maintenant, la question qui se pose est bien évidemment, quels sont les peuples qui, aujourd'hui, réclament leur droit à l'autodétermination? Eh bien, on en a beaucoup. Parmi les plus connus, on a évidemment tous les peuples indiens du Canada et des États-Unis qui voient leurs droits complètement bafoués depuis des siècles. La plupart des membres de ces communautés vivent dans des réserves insalubres et en dessous du seuil de pauvreté. Un petit détail que semble oublier bien vite hein, tous les militants des belles universités américaines qui depuis le 7 octobre ont transformé les campus en terrain d'intifada. Parce qu'apparemment c'est bien plus facile de dénoncer le colonialisme de l'autre bout du monde tout en profitant de terres qui, historiquement parlant, ont été volées à des millions d'autres. On a aussi les peuples aborigènes d'Australie, où là encore, des étudiants d'une université ont un jour fait un vote à main levée, hein, comme ça, tout seul, personne ne leur a rien demandé, pour déclamer tout seul qu'il fallait rompre tout lien avec Israël. Et ce, alors que quelques mois plus tôt, le peuple australien avait largement voté contre une loi qui aurait permis d'octroyer plus de droits au peuple aborigène. C'est ce que j'appelle de l'ironie. On a aussi le cas du peuple sahraoui qui cherche à se libérer de l'occupation marocaine, ou le peuple tibétain dans sa relation compliquée avec la Chine. Et on a encore les Kurdes qui luttent pour leur autodétermination afin d'avoir leur propre patrie, le Kurdistan, mais dont le projet est avorté à cause de toutes les persécutions que leur font subir la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Oui, ceux-là même, toujours au garde à vous pour dénoncer le colonialisme chez les autres. Et on a enfin, bien évidemment, l'éléphant au milieu de la pièce. Je parle, bien sûr, du peuple juif et du peuple palestinien. Toutes deux réclament leur droit à l'autodétermination. Et s'il ne fait aucun doute que tous deux remplissent parfaitement toutes les conditions pour exercer ce droit et que pour l'un comme pour l'autre, ce droit doit être garanti, je vais juste terminer cette chronique en revenant un peu sur l'exemple du peuple juif. En effet, je parlais tout à l'heure d'exemples de peuples qui avaient réussi à obtenir ce droit à l'autodétermination. Et je vais bien évidemment prendre l'exemple de la création d'Israël. Rappelez-vous, le droit à l'autodétermination, c'est le droit d'un peuple à disposer de lui-même et à se libérer de toute forme d'oppression. Et entre les persécutions vécues par le peuple juif tout au long de son histoire, son lien indiscutable avec la terre d'Israël, maintes fois prouvé par l'histoire et l'archéologie, sa présence discontinue au Proche-Orient et la création du mouvement sioniste, tout ça, ce sont des critères qui font du peuple juif un peuple qui a réclamé son droit à l'autodétermination. Donc vous voulez un exemple d'autodétermination réussie ? La création de l'État d'Israël le 14 mai 1948 a constitué un événement majeur et incontournable pour l'ensemble de la judaïté mondiale. Davantage que la coprésence sur un même territoire d'une population majoritairement juive, le vote de l'Assemblée générale des Nations unies a garanti au peuple juif l'accès à la souveraineté politique et a affirmé le droit du peuple juif à l'autodétermination. Donc, pour en revenir à ce que je disais en introduction, quand vous voulez employer des grands mots, assurez-vous au préalable de bien les comprendre et surtout de connaître l'histoire liée à ce mot. Et quand on parle d'autodétermination, on parle avant tout de liberté. Et ma liberté ne doit pas se faire au détriment de celle des autres. Ça, c'est un fait. Mais si pour réclamer la liberté des uns, ça doit passer par nier la liberté des autres, ça, c'est pas l'autodétermination. Ça, c'est un autre grand mot bien compliqué. Ça, c'est de l'oppression. Et sur cette réflexion, je vous dis à la semaine prochaine.